Je vous le disais juste avant la pause, aujourd'hui, la Russie et les États-Unis ont procédé à cet échange entre la basketteuse américaine Brittney Griner et cet homme que vous voyez, Victor Boot, trafiquant d'armes, l'un des plus grands trafiquants d'armes au monde qui était emprisonné aux États-Unis. L'échange a eu lieu aujourd'hui. Victor Boot est revenu aujourd'hui en Russie. On a ce soir le témoignage de sa mère.
Je suis très reconnaissante envers notre président, Vladimir Poutine. Une profonde gratitude maternelle aussi envers le ministère des Affaires étrangères, dirigé par Sergueï Lavrov. Pourquoi ? Parce que ces diplomates, ses employés, sont allés voir Victor dans sa prison à New York. Ils nous ont permis de ne pas perdre espoir. Ils ont donné de l'espoir à notre patrie. Sa patrie ne l'a pas oublié.
Pauline, question simple, qui est Victor Boot?
Il est surnommé le marchand de mort, ça vous donne déjà une indication. Il est considéré comme l'un des plus gros, des pires trafiquants d'armes de l'histoire et qui a su profiter de la chute de l'URSS, de l'Union soviétique. Alors, pour vous donner une idée du personnage, aussi cynique que charismatique, vous voyez l'homme à la célèbre moustache, il a inspiré Hollywood, puisque c'est le personnage du film Lord of the War, incarné par Nicolas Cage à l'écran, eh bien, il est tiré de son existence. Alors, il a été accusé d'avoir vendu illégalement des armes un peu partout dans le monde, dans tous les conflits les pires, les plus sanglants, en Afrique, notamment en Sierra Leone, au Rwanda, au Congo, en Amérique latine, mais aussi à des groupes terroristes, à Al-Qaïda, aux talibans. Il parvient à échapper pendant très longtemps à la justice. Et finalement, ce sont les Américains qui vont l'arrêter en 2008 en Thaïlande avec un stratagème, puisque ce sont des agents américains qui vont se faire passer pour des rebelles colombiens, des FARC, en prétendant vouloir acheter des armes pour attaquer les États-Unis. Il accepte de le faire et donc il est arrêté, finalement transféré aux États-Unis où il va être condamné en 2012 à 25 ans de prison. Et il ne s'agit pas de trafic d'armes de quelques Kalachnikov, c'est vraiment un énorme trafic d'armes. Un procureur de New York avait révélé à l'époque une partie de l'immense arsenal qu'il avait vendu. Écoutez.
Voici juste une partie de l'arsenal meurtrier que Victor Boot a livré. Plus de 700 missiles sol-air, 5,000 fusils d'assaut AK-47, des mines antipersonnelles et des millions de cartouches d'ammunition.
Alors, les Américains également sont convaincus qu'il est membre des renseignements militaires russes, du GRU. Il est ancien officier, effectivement, de l'armée de l'air soviétique. Et donc, il a profité de la chute de l'Union soviétique pour acheter à bas prix des armes, des stocks d'armes, et puis pour les revendre ensuite. Et il avait eu ce coup de génie, si on peut dire, de fonder sa propre entreprise, société de cargo d'avions, qui lui permettait donc de faire ce trafic d'armes partout dans le monde.
Il assurait le trafic, la livraison, et il faisait tout. C'est un vautour, en fait. Il s'est servi sur la bête, Sergueï Zhirinov. Il s'est servi sur la bête morte de l'Union soviétique.
Absolument, mais c'est mieux que ça. Hein. C'est même quelqu'un.
C'est-à-dire.
Moi, j'ai une fascination par rapport à ça parce que dans l'intimité, je disais, c'est quelqu'un qui a une biographie qui est plus romanesque que la mienne.
Et c'est rare.
C'est rare.
Vous, l'ancien espion, c'est rare.
Non, mais il est fascinant. Après, c'est là, vous avez donné tout ce qui est négatif.
Fascinant, etc. C'est quand même le pire vendeur d'armes qu'on puisse trouver sur Terre.
Méfiez-vous. Parce que si on prend le côté négatif, bien évidemment, c'est un salaud. Il n'y a aucun problème. Mais en revanche, c'est un génie de commerce, déjà. C'est un génie de commerce. C'est un génie linguistique. Parce qu'il a fait quand même l'école militaire de traducteur. Il a travaillé pour la GRU, la Direction Générale du Renseignement Militaire. Mais il n'y a pas que ça. Parce que avant de se lancer dans le commerce d'armes, il a vendu les fleurs. Il a vendu les glaïeuls entre l'Afrique du Sud, où il les achetait à 2 dollars, et les revendait aux Saoudiens à 100 dollars. Et c'est comme ça qu'il s'est acheté tous ses avions. Il est arrivé à avoir 160 avions avec 1000 employés. Et plus que ça, il a servi tous les pays occidentaux, l'ONU, la France, les États-Unis, pour les missions aussi humanitaires. Donc, il y a de tout dans sa carrière. Non, mais c'est quelqu'un de fascinant.
Moi, je trouve qu'on est vraiment dans cet échange, et quand on oppose Boot et pardon, c'est Reiner. Reiner.
La Belle et la Bête.
Oui, mais surtout, on a deux conceptions du monde et deux héros, deux champions qui s'opposent en cette période de Noël. Chacun revient, et Biden et Vladimir Poutine reviennent vers leur population respective avec leur champion. Ils ont sauvé leur champion, un cadeau. Et ce qui est très intéressant, je trouve, quand on parle justement du volley-boot, c'est que c'est exactement les valeurs promues par Vladimir Poutine au pouvoir. C'est-à-dire, derrière les ordres du Kremlin, qui voit-on ? Ben, en fait, c'est quelqu'un qu'on pourrait presque comparer à Evgeny Prigojine. Mmh. C'est qui, quelqu'un c'est qui, au moment de l'effondrement de l'URSS, d'abord conspue le régime, arrive à se nourrir sur la bête, parce que finalement, c'est quelqu'un qui arrive à survivre dans des conditions d'effondrement total de l'État et de la société, qui est parfaitement adapté aux règles les plus sauvages du capitalisme sauvage.
Il est richissime.
Il est devenu richissime. Et surtout, il y a un nihilisme qui correspond fondamentalement à la vision du monde politique que l'on développe dans la culture russe. Une espèce de fond qui est que le monde politique est pourri. Et donc, être un vendeur d'armes, c'est absolument banal, c'est même mieux. C'est être lucide sur l'état du monde. Et c'est pour ça qu'il est valorisé dans la culture russe. Et cet homme, il est susceptible d'être promu à des postes très importants. Intéressant que ce soit à l'Académie diplomatique ou au Conseil d'administration de grosses sociétés.
Il y a deux, trois détails dans la biographie qui m'interpellent et je voudrais qu'on en parle dans une seconde, Sergueï, mais d'abord.
Je voulais réagir avec ce portrait que vous avez dressé de Victor Bout. Ça grince un peu des dents du côté des États-Unis parce que de l'autre côté, qui on a ? On a Brittney Griner, star, l'une des meilleures joueuses de basket au monde, qui est en plus cette icône de la cause LGBT aux États-Unis. Il y a eu énormément de pression, icône aussi de la communauté noire américaine. Et finalement, elle a été arrêtée, elle, c'était clairement une otage, hein. C'est ce que disent les Américains. C'est vrai que c'est interdit, aux États-Unis d'avoir du liquide au cannabis pour sa vapoteuse, mais elle a été condamnée à 9 ans de prison, donc effectivement ça grince des dents. C'est peut-être pour ça que ça avait traîné, parce qu'on a parlé très rapidement de cet échange potentiel. Ils ont essayé jusqu'au bout d'obtenir Paul Whelan notamment, je vous vois faire nom du doigt, mais en tous les cas ils n'ont pas réussi à obtenir la libération au moins de Paul Whelan qui lui, est un ancien marine accusé d'espionnage. Il y aurait eu au moins 2 Américains en échange de l'un des principaux trafiquants d'armes au monde.
Vous savez pourquoi ça traînait en réalité ? Parce que Poutine ne voulait pas faire cadeau à Biden avant les midterms. Parce que Biden voulait utiliser aussi, il faut bien le dire, pour sa communication. Vous imaginez s'il l'a ramené avant les midterms ? Alors là, déjà, il a le Sénat actuellement, en fait, mais il aurait peut-être eu même la Chambre de représentants.
C'est une figure populaire en Russie. Bout, il est très connu. C'est quelqu'un qui a une notoriété.
Non. Non, beaucoup moins.
Ça va le devenir.
Brittney, c'est une star, champion olympique.
Et on voit d'ailleurs à la fois Kamala Harris, la Maison Blanche, Biden lui-même, etc. Ouais. On fait une énorme communication sur son retour aux États-Unis. Après, moi, je suis d'accord, ça pose quand même la question de l'équilibre en fait entre dans l'échange qui interpelle un peu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand même, on est un tout petit peu rassuré, surtout dans la perspective d'une sortie de la crise russo-ukrainienne, de se dire que, en fait, il y a des discussions entre la Russie et les États-Unis.
Ça a toujours existé, hein.
Exactement. Mais là, du coup, ils arrivent même à arriver à quelque chose de concret.
Comme autour de la guerre froide.
Exactement. Comme autour de la guerre froide.
Non seulement ils se parlent, mais ils arrivent à se mettre d'accord sur quelque chose.
Petite anecdote.
On met un peu de suspense avant l'anecdote.
Oui,
c'est parce que je veux savoir ce que note depuis tout à l'heure le colonel Goya sur son calepin. Vous n'avez pas pris la parole.
Non, mais tout ça, ça me fait penser effectivement à toute cette époque toutes les années 90, de cette période de l'effondrement de l'ancienne Union soviétique et des arsenaux quasiment à ciel ouvert et qui vont inonder le monde, particulièrement l'Afrique, le Moyen-Orient, que je vais retrouver, par exemple, c'est plusieurs fois en face, et qui vont transformer le monde, quoi. Il faut rappeler que effectivement, il fait l'objet d'un film. Mais dans le film, personnage joué par Nicolas Cage est ukrainien et qu'il se sert en Ukraine parce que l'Ukraine aussi à ce moment-là était une plaque tournante du commerce international des armes. Au passage, une des grandes plaques tournantes dont on parle peu, c'est la Transnistrie. Et ce territoire coincé entre la Moldavie qui est en fait la plaque tournante du trafic d'armes russe.
C'est ça.
Et géré. Directement par la Russie. Donc voilà, c'est un homme des années 90 un homme important des années 90 et qui a contribué à cette transformation même de l'art de la guerre. C'est-à-dire que en diffusant toutes ses armes, il a donné beaucoup plus de pouvoir des organisations armées, qu'elles soient djihadistes ou criminelles partout en Afrique, qui ont défié des États et ça a contribué très largement à la déstabilisation d'une grande partie du monde.
Anecdote, Sergei Gerlov.
Donc la cerise sur le gâteau. Britney a été reçue à la Maison Blanche. Enfin, on l'a pas vue encore, mais bon, elle est attendue
à la
Maison
Blanche. Elle est dans l'avion. Elle est en route pour les États-Unis.
Poutine a croisé Booth. En fait, ils arrivaient au même aéroport, Vnukovo-2 aujourd'hui. Poutine, il partait au Bishkek, donc en Asie centrale, pour un énième sommet entre les anciennes républiques, qui ne vont rien dire absolument. Et en fait, c'est juste pour se mousser un tout petit peu. Et il a dit, on va pas le rencontrer. Enfin, c'est Peskov, le porte-parole de Kremlin, qui l'a dit. Ils vont être dans le même aéroport, mais pas au même moment. Et donc, président Poutine ne lui organise quand même pas la réception avec le tapis rouge, avec l'étoile du héros, ce qu'il a fait hier avec les militaires de l'armée.
Je m'arrête sur un point de détail, mais sur un élément que vous avez donné tout à l'heure. Il est passé par l'Institut militaire des langues étrangères à Moscou.
Ouais. Mmh.
Vous aussi ?
Non. Ah. Non, moi j'ai fait MGIMO, Institut de Relations Internationales, et j'ai failli, hein, parce que en fait j'avais un choix de rentrer soit dans l'autre, mais Institut des langues étrangères de Moscou, c'est la chambre d'entrée vers la GRU.
Et MGIMO, le renseignement militaire.
Et MGIMO, c'est plutôt le KGB. Et donc,
comme quoi.
Voilà. À quoi ça joue?
Oui, absolument. À quoi ça, avant de vous raconter comment Vladimir Poutine compte visiblement fuir la Russie en cas de défaite. En tout cas, c'est ce qu'indique le magazine américain Newsweek. On va en parler dans une seconde.